France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump se déchaîne contre Volodymyr Zelensky, un dictateur sans élection, affirme ce soir le président américain. Hier, il avait accusé son homologue ukrainien d'être plus ou moins responsable de l'invasion russe. Zelensky dénonce, lui, un Donald Trump sous influence russe. Quant à Vladimir Poutine, il se réjouit de la reprise du dialogue avec les États-Unis. Face à la menace croissante de la Russie, le Danemark se réarme massivement. 7 milliards d'euros pour l'armée danoise d'ici l'an prochain. En France, le Parlement valide la candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. À une voix près, la neutralité bienveillante du Rassemblement national a visiblement sauvé la mise au candidat d'Emmanuel Macron. Le comédien et metteur en scène Clément Hervieux-Léger, nouvel administrateur de la Comédie française, avec un défi de taille, succédé à Éric Ruff qui a dirigé la maison de Molière pendant 11 ans. La rupture semble donc consommée ce soir entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Quelques heures après les retrouvailles diplomatiques américano-russes à Riyad, le président américain avait littéralement chargé son homologue ukrainien en l'accusant d'être responsable de la guerre. « Vous n'auriez jamais dû la commencer », avait lancé Trump depuis son fief de Mar-a-Lago en Floride. Et d'ajouter que Zelensky était au plus bas dans les sondages avec 4% d'opinion favorable. En réalité, la cote du président ukrainien est aujourd'hui de 57%. Selon une enquête publiée ce matin. Mais ce soir, Donald Trump continue à vilipender Volodymyr Zelensky, cette fois sur son réseau Truth Social. On retrouve à Kiev l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Taillard.
Un dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays. Voilà ce qu'écrit Trump sur son réseau social ce soir. Une menace et des mots d'une violence inouïe contre un président ukrainien qui a eu l'outrecuidance de dénoncer l'absence de son pays à la table des négociations à Riyad. Trump lui avait déjà asséné de virulentes critiques hier soir, rappelant d'un ton presque moqueur qu'il avait eu 3 ans pour trouver un accord et mettre fin à une guerre qu'il n'aurait jamais dû commencer. Le président américain avait surtout commencé à mettre en doute sa légitimité, pointant l'absence d'élection présidentielle en raison de la loi martiale en Ukraine et soulignant son impopularité en avançant un chiffre de 4% d'opinion favorable, un chiffre tout droit sorti de Moscou, lui répond aujourd'hui Volodymyr Zelensky.
Nous avons vu cette désinformation. Pour nous, cela vient de Russie. Nous avons des preuves qu'il en a été question au cours des discussions entre les États-Unis et la Russie. Malheureusement, le président Trump, avec tout le respect que j'ai pour lui en tant que dirigeant d'une nation que nous respectons profondément, malheureusement, il vit dans une bulle de désinformation.
Déjà furieux de voir des discussions débuter sans l'Ukraine, Volodymyr Zelensky va désormais devoir composer avec les humeurs, les saillies du président américain, dont l'envoyé spécial pour l'Ukraine a posé le pied à Kiev ce matin.
Nicolas Taillard, envoyé spécial en Ukraine. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine se réjouit de la reprise du dialogue avec les États-Unis sur le dos des Ukrainiens. En déplacement à Saint-Pétersbourg cet après-midi, le président russe a livré ses premières impressions sur le sommet de Riyad. S'il est encore trop tôt, selon lui, pour envisager une rencontre avec Trump, le maître du Kremlin a eu d'excellents échos du sommet, échos rapportés par les négociateurs russes, dont son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. On écoute Vladimir Poutine.
Oui, ils m'ont fait un rapport, c'est la première chose. Deuxièmement, j'en ai une bonne impression, il y a un résultat. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons convenu de reprendre un travail diplomatique normal. Les expulsions constantes de diplomates à Washington et à Moscou ne mènent à rien de bon. D'une façon générale, comme on me l'a rapporté, l'ambiance était très sympathique. Comme nos négociateurs me l'ont dit, du côté américain, il y avait des gens complètement différents, ouverts au processus de négociation, sans aucun parti pris, sans aucune condamnation de ce qui avait été fait dans le passé. En tout cas, il n'y avait rien de tel dans ces contacts bilatéraux. Nous sommes disposés à travailler ensemble, ouverts à travailler ensemble.
Et sur le plan militaire, Vladimir Poutine a aussi affirmé que des troupes russes avaient lancé une nouvelle offensive en Ukraine par la région russe de Koursk. Information démentie ce soir par Kiev qui dénonce un nouveau mensonge du Kremlin. C'est dans cette région de Koursk que l'armée ukrainienne avait lancé une incursion sur le sol russe l'été dernier. Les militaires ukrainiens y contrôlent encore quelques centaines de kilomètres carrés. Face à la menace croissante que représente la Russie, plusieurs pays européens se préparent à toute éventualité. Exemple, le Danemark qui annonce aujourd'hui un plan de réarmement massif pour son armée. Le pays, l'un des plus importants soutiens de l'Ukraine, va créer un fonds qui lui permettra d'augmenter ses propres dépenses militaires. Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir.
Un effort conséquent de 50 milliards de couronnes danoises, soit près de 7 milliards d'euros sur l'exercice 2025-2026.
Et avec cet argent, l'armée danoise va pouvoir moderniser sa flotte, acheter de nouveaux drones et pourquoi pas davantage de F-35 américains. Elle va surtout s'offrir ce qu'elle n'a pas, un système de défense anti-aérienne. L'argent permettra d'accélérer les commandes sans avoir à passer par des appels d'offres européens souvent très longs et très complexes, car le gouvernement ne veut pas attendre. Acheter ce qui peut l'être ici et maintenant, martèle la première ministre Mette Frederiksen. Et si le délai d'attente est trop long, prenez autre chose qui peut être livrée plus vite, car maintenant une seule chose compte, c'est la rapidité. La Russie produit en 3 mois plus de munitions que l'OTAN en une année entière. L'agence danoise de renseignement assure en effet que si ce retard n'est pas comblé et si la guerre en Ukraine se met sur pause, alors d'ici 2 ans, la Russie sera en capacité d'engager une guerre contre un ou plusieurs pays de l'OTAN. Il s'agit donc de faire œuvre de dissuasion. Avec ses 50 milliards de couronnes, 25 cette année, 25 l'an prochain, le Danemark dépensera plus de 3% de son PIB pour sa défense, niveau jamais atteint depuis plus de 50 ans.
Explication signée Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France. Pour répondre à Donald Trump, Emmanuel Macron organise ce soir à l'Élysée une nouvelle réunion sur l'Ukraine, avec ses partenaires européens mais aussi avec le Canada. La plupart des dirigeants des pays représentent sont en distanciel. Emmanuel Macron, qui n'exclut pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu, mais des troupes qui ne seront pas en situation de combat sur le front. C'est un grand ami de Donald Trump, lui aussi poursuivi par la justice de son pays, le Brésil. Jair Bolsonaro a été inculpé hier soir pour un projet de coup d'État. L'ancien président brésilien d'extrême droite est accusé, avec une partie de son entourage, d'avoir conspiré pour son maintenir au pouvoir après sa défaite électorale de 2022 face à Lula. Un épisode de plus dans la saga judiciaire de Bolsonaro, mais cette fois il risque gros, entre 12 et 40 ans de prison. Jean-Mathieu Albertini nous appelle de Rio.
C'est bien une tentative de coup d'État qu'évoque le parquet. Il y a un décret d'état de siège qui aurait été préparé, mais aussi une opération menée par des forces spéciales. Appelée poignard vert et jaune, elle aurait dû mener aux exécutions de Lula, de son vice-président et d'un juge de la Cour suprême. Enfin, il y a aussi la tentative de créer le chaos le 8 janvier, avec la mise à sac des lieux de pouvoir de la capitale par des milliers de bolsonaristes. Cette inculpation se base sur une longue enquête de la police fédérale. Le projet n'aurait pas abouti en raison d'un manque de soutien dans l'armée, mais Jair Bolsonaro y aurait pris part directement. 33 autres suspects sont aussi accusés. Son candidat à la vice-présidence, le général Braga Neto, fait partie de cette liste. Il a été arrêté fin 2024, accusé de faire entrave à l'enquête. Si la Cour suprême décide de l'ouverture d'un procès, il devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Déjà condamné à une peine d'inéligibilité dans une autre affaire, Jair Bolsonaro se dit innocent.
Jean-Mathieu Albertini, correspondant au Brésil pour France Culture. Emmanuel Macron respire ce soir. Son candidat Richard Ferrand sera bien le nouveau président du Conseil constitutionnel. Une candidature validée à une voix près par le Parlement, en l'occurrence les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée. En réalité, Richard Ferrand était minoritaire à l'issue du vote, puisque 39 élus ont voté pour lui et 58 ont voté contre. Mais il aurait fallu 59 voix pour empêcher la nomination de l'ancien président de l'Assemblée, très proche d'Emmanuel Macron. Seulement voilà, le Rassemblement national a décidé de s'abstenir. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Ce qui fait dire à la droite comme à la gauche que le RN est complice de cette nomination.
Oui, ça sent la magouille, lâche le député LR Julien Diff. C'est incompréhensible pour l'ancien président du groupe Olivier Marleix. Il y a forcément un deal, un accord, abonde une autre élue Les Républicains, Émilie Bonivard.
Honnêtement, c'est impossible. Autrement, comment vous pouvez expliquer que le Rassemblement National, qui passe son temps à taper sur le président de la République, permette, parce que c'est grâce à eux, la nomination de Richard Ferrand évidemment que ça pose des questions et on a envie d'aller gratter ailleurs. Et quand on va gratter ailleurs, on voit qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui va arriver au Conseil constitutionnel sur la question de l'inéligibilité de Madame Le Pen. Voilà, c'est vraiment pas très joli.
Cette question prioritaire, c'est celle posée par un élu mahorais condamné à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate, la même menace qui pèse sur Marine Le Pen dans le procès des assistants d'eurodéputés et que le Conseil va donc devoir trancher à Arthur Delaporte chez les socialistes.
Cette abstention ne peut être vue que comme une abstention opportuniste qui vise à faire une espèce de sentiment de sympathie vis-à-vis de Richard Ferrand ou à le susciter.
En tout cas, le sort de Marine Le Pen sera donc entre les mains de Richard Ferrand, poursuit le communiste Fabien Roussel, quand l'insoumise Mathilde Panot s'interroge sur un accord secret. Rien de tout ça, jure le macroniste Jean-René Cazeneuve.
Bien sûr que non, il n'y a pas de deal avec le RN.
Arrangement nié aussi du côté du RN, son porte-parole Brian Masson.
On n'a pas le droit d'être dans cette stratégie politique-là. Nous, au Rassemblement National, on l'a toujours dit, nous sommes dans une opposition constructive. Donc ce genre de choses ne rentre évidemment pas en vigueur dans notre ligne de mire.
Face à ces interrogations et surtout cette approbation bien fragile, certains à gauche appellent le président à renoncer à nommer Richard Ferrand.
Merci Rosalie Lafarge. L'enquête sur les violences sexuelles au collège-lycée de Bétarame semble s'accélérer ce soir. 3 personnes ont été placées en garde à vue, annonce le parquet de Pau. 3 hommes suspectés de viol, agressions sexuelles et violences aggravées. Les faits présumés sont anciens, ils s'étalent entre 1957 et 2004. Et les 3 hommes interpellés sont âgés, le plus vieux est né en 1931. L'affaire s'accélère aussi sur le plan politique, puisque l'Assemblée va lancer une commission d'enquête. Cela fait maintenant une dizaine de jours que le Premier ministre François Bayrou peine à expliquer qu'il n'était au courant de rien. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée a voté ce matin à l'unanimité pour se constituer en commission d'enquête parlementaire sur le contrôle par l'État des violences dans les établissements scolaires.
Oui, une première réponse politique et une première victoire pour les victimes, s'est réjoui le député insoumis Paul Vaillant au micro de Rosalie Lafarge.
Je veux d'abord avoir une pensée pour les victimes de Bétarame, dont la prise de parole a déclenché cette commission d'enquête qui va pouvoir identifier les défaillances qui ont conduit, dans le cas de Bétarame, à ce que pendant 60 ans, des crimes terribles aient pu se produire.
Le député Paul Vanier, c'est lui qui avait demandé la création de cette commission d'enquête, loin de faire l'unanimité ce matin encore. Car à droite, au RN et au centre, la proposition du député insoumis, qui ne ciblait que les écoles privées sous contrat, dérangeait. Stigmatisation pour les uns, instrumentalisation pour les autres. Après de longs débats, un compromis a finalement été trouvé pour inclure tous les établissements scolaires. Erwan Balanant, député du Modem.
Je pense que le fait de sortir cette question d'un sujet politicien et d'en faire un vrai sujet de représentation nationale dans sa globalité, c'est mieux. Ça permettra d'avoir aussi un consensus sur les préconisations qui pourraient être faites à l'issue de cette commission d'enquête.
Alors ce n'est qu'une première étape, le vote des députés doit maintenant être présenté au garde des Sceaux, puis au gouvernement et aux autres présidents de groupes et de commissions. Sans réserve de leur part, la commission pourra alors débuter ses travaux afin de trouver, selon le député socialiste Emmanuel Grégoire, des explications et des solutions.
Ça nous donnera des indications qui auront un débouché parlementaire sous forme de soit de PPL, soit le gouvernement reprendra la main. En tout cas, qui est un débouché législatif sur la façon dont on contrôle et dont on assure le suivi de ce type de situation.
Selon un rapport parlementaire de 2024 portant sur l'enseignement privé, ces contrôles sont aujourd'hui insuffisants, faute de moyens et de volonté politique.
Jeanne Serrin et l'association Move Enfants, mobilisée contre les violences faites aux mineurs, demandent la fermeture du collège-lycée de Bétarame. Quand il y a eu autant de sévices physiques, de sévices sexuels et d'actes de torture et de barbarie sur les enfants, qu'est-ce qu'on attend de plus ? Interroge son président Arnaud Gallet. Arnaud Gallet qui souhaite que Bétarame devienne un mémorial de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. C'est un temps fort du procès de Medine Mouche devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les premiers témoignages des 4 journalistes français otages du groupe État islamique en Syrie entre 2013 et 2014. Le djihadiste Medine Mouche est accusé d'avoir été leur geôlier, ce qu'il nie. Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès pour France Culture. Après Édouard Elias ce matin, la cour a entendu cet après-midi Didier François, un reporter de guerre très expérimenté qui a été détenu avec lui pendant 11 mois. Didier François qui a raconté l'enfer de la détention en Syrie. Il a lui aussi désigné l'accusé comme étant l'un de leurs geôliers, Florence.
Ils ont vécu les mêmes supplices, mais leurs récits résonnent à mille lieues l'un de l'autre. Celui d'Edouard Elias, le jeune photographe, 22 ans à peine lors de leur enlèvement, avec la force, la précision du détail, et celui de Didier François, bientôt 65 ans, et des dizaines d'années de terrain de guerre derrière lui. Cheveux en brosse, barbe blanche, solidement ancrée à la barre des témoins, qui n'hésite pas à se tourner vers le box des accusés, où Béni Lemouche ne le lâche pas des yeux. Une voix chaleureuse, débit ultra rapide, l'enthousiasme du métier chevillé au corps. D'un point de vue journalistique, admet-il, c'était passionnant de se trouver au cœur d'un réacteur que personne n'avait vu venir, d'observer la naissance de cet État islamiste, un système totalitaire qui fonctionne par la terreur en interne, le terrorisme en externe. Les digressions géopolitiques, sa parfaite connaissance du sujet l'emportent sur la description des sévices subis. Et puis, explique Didier François, j'ai un peu de mal en tant que reporter à ne parler que de mon sort, alors que le projet de vos camarades, un regard vers Mélie Némouche au passage, est un projet génocidaire. Il raconte néanmoins par petites touches, en allant aux toilettes, on marchait sur des gens qui sortaient de torture. C'était un abattoir cet endroit. Les privations organisées par des professionnels, juste le minimum nécessaire pour que l'on survive, car nous avions une certaine valeur. Et surtout, la force du binôme qu'il formait avec Edouard Elias. Je n'aurais jamais tenu sans son aide, lance Didier François. Lui aussi est formel sur l'identité du Français qui a été leur geôlier. Il est présent dans cette salle, c'est Mehdi Nemouche, je n'ai strictement aucun doute.
Florence Turme depuis la cour d'assises spéciale de Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Ce chiffre plutôt inquiétant à présent en matière de transition écologique, 45% des grandes entreprises françaises n'ont acheté aucune voiture électrique l'année dernière. C'est ce que révèle l'ONG Transport et Environnement. La loi d'orientation des mobilités de 2019 les oblige pourtant à respecter un quota d'au moins 20% de véhicules propres sur leurs acquisitions annuelles. Des obligations respectées par un quart des 3700 groupes soumis à cette réglementation et même dépassées par d'autres entreprises comme la Poste. Emeline Bonavent, il y a effectivement un grand écart entre les bons et les mauvais élèves du côté des entreprises.
Pourtant, elles évoluent dans des secteurs similaires. Par exemple, 41% des nouvelles voitures acquises en 2024 par Orange sont électriques, alors que le groupe Altice, propriétaire de SFR, n'en a acheté aucune et a investi dans seulement 4% d'hybrides. L'ONG Transport et Environnement regrette le manque d'engagement de ces sociétés qui n'ont développé aucun projet de transition ces 6 dernières années. D'autant que les retours d'expérience sont positifs, la Poste, Orange ou encore le Crédit Agricole et Vinci Autoroutes. Tous ces bons élèves vantent les mérites de la transition et d'abord sur le plan financier. De plus, ce manque d'investissement dans l'électrique a des conséquences sur le marché automobile. Les grands groupes sont les premiers acheteurs de voitures neuves aux constructeurs français et ce sont également eux qui alimentent en grande partie le marché d'occasion où la plupart des particuliers se fournissent. Pour tenter de contraindre les entreprises à respecter les quotas, la loi de finances de cette année prévoit de mettre en place des sanctions financières, une somme à payer pour chaque véhicule électrique manquant.
Emeline Bonavent. La Comédie française a un nouveau patron ce soir. Le comédien et metteur en scène Clément Hervieux-Léger a été nommé administrateur de la maison de Molière. Il aura pour mission de poursuivre le rayonnement de l'institution, selon les termes du communiqué du ministère de la Culture. Bonsoir Mélanie Kuzelevitch.
Bonsoir.
Clément Hervieux-Léger aura surtout la lourde tâche de succéder à Éric Ruff, qui aura dirigé la Comédie française pendant 11 ans.
En effet, pas simple de succéder à Éric Ruff, l'homme qui a donné un nouveau souffle, celui qui a dépoussiéré la Comédie française. En plus d'apporter modernité et sang neuf, Éric Ruff a su apaiser les tensions au sein de l'institution, presque tout en tout cas. Avec le titre d'administrateur, Clément Hervieux-Léger hérite également de lourds dossiers comme celui de Nazim Boudjena, pensionnaire de la Comédie française, accusé de menaces de mort et de viol. Autre défi pour le futur chef de troupe, poursuivre le rayonnement du premier établissement théâtral de France, vous l'avez dit, insiste le ministère de la Culture, une institution que le comédien et metteur en scène de 48 ans connaît bien pour avoir passé 20 ans au sein de la troupe. C'est lui qui a incarné Robespierre dans la mort de Danton, de Büchner, d'Orante, dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Il présente également ses propres projets, comme On achève bien les chevaux, salué par la critique il y a 2 ans. Pour lui, le théâtre est essentiel, nécessaire, il l'affirme dans les midis de France Culture en septembre 2023.
Je pense qu'il y a un public qui le sait, absolument. Et puis il y a un public qui ne le sait pas parce qu'il n'ose pas pousser les portes des théâtres. c'est aussi à ce public-là qu'on a besoin de s'adresser. Je suis pas sûr que le théâtre puisse changer le monde, malheureusement, mais je suis certain qu'il peut changer des vies.
Des mots qui résonnent déjà comme une ligne directrice pour les années à venir à la tête de l'institution. En plus de la programmation, le pilotage des tournées, le développement de la politique audiovisuelle, mais aussi la gestion d'importants travaux de mise aux normes et de rénovation énergétique de différentes salles de la Comédie française.
Mélanie Kuzelevitch, merci. Le temps demain, le redoux arrive, un ciel gris et pluvieux sur le pourtour méditerranéen et sur le nord-ouest, ailleurs des éclaircies après les brumes matinales. Les températures minimales sont en hausse de 1 à 6 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 9 et 22 degrés du nord à l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Jean-Guy Linmège.